Bonjour Franck.
Bonjour Yann.
Si je te dis art, tu me réponds.
Artiste.
Si je te dis vivre, tu me réponds.
Expérimenté.
Et si je te dis travail, tu me réponds.
Go, go, go.
Eh bien, bonjour à tous pour ce deuxième numéro du podcast J'ai rendez-vous avec. On accueille Franck Poncel, entre autres directeur du restaurant Cancan. Bonne écoute à tous. Eh bien, bonjour Franck.
Salut Yann.
Ça va?
Bah, super, super, super.
Bon, j'ai envie de te poser une première question. Je prends un mini risque, hein, mais on va se lancer. Je suis pas sûr d'avoir les infos exactes. Comment ça va depuis le 4 juin 2019?
Depuis le 4 juin 2019, oula,
Le 5 juin 2019.
Le 4, le 4 à
Le 4.
23h56. Ouais. 23h56, l'arrivée du petit Marceau. Voilà, c'est mon petit fiston qui a pris 18 mois là dernièrement. Non, bah, d'un grand changement dans la vie, évidemment. Des nuits un peu plus courtes, des réveils un peu plus tôt et plein de bonheur au quotidien. Non, non, d'autant plus que là, ça grandit fortement, ça devient très, très intéressant. Des moments très complices. Et puis, bah, papa a maintenant un partenaire pour faire ses bêtises, donc c'est cool.
Bon, et puis bah, j'imagine que ça a été un mini avantage. Au moins, le premier confinement, ça t'a permis d'augmenter les relations que tu avais avec lui, parce qu'en tant que patron de resto, j'imagine que tu passes beaucoup, beaucoup de temps au travail.
Bah, le resto, c'est 9h jusqu'à 1h du matin, quasiment entre 5 et 6 jours par semaine. Donc, bah, je vous laisse calculer entre 70 et 90 heures de travail par semaine. En effet, ce premier confinement, alors, pour le côté économique, n'était pas du tout favorable. Sur le côté familial, ça a permis vraiment de... pas de se retrouver avec la famille, mais vraiment de prendre conscience qu'il y a une famille, de passer du temps avec, en effet, ce petit qui a 9 mois au premier confinement, et bah, du coup, de vraiment découvrir ce qu'est une vie de famille avec sa compagne au quotidien. Alors, je ne te cache pas que les 3 premiers jours ont été extrêmement tendus, où je lui ai dit, bah, c'est pas dur, c'est soit tu me laisses continuer à faire un petit peu ma vie comme je le souhaite, tout en respectant, évidemment, le cadre familial et le confinement, hein. Ou sinon, tu vas passer le confinement chez ta mère et puis, et puis voilà. Mais, et en fait, au bout, une fois que les choses ont été dites avec madame, non, non, on a su se trouver, se retrouver et du coup, vraiment, de là est vraiment née officiellement la famille pleine de bonheur qu'on a à l'heure actuelle.
Ok. Bon, nous, on te connaît, mais tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous raconter ton parcours avant de devenir directeur du restaurant Cancan à Rouen?
Oui, bien sûr. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 34 ans. Je suis né à Rouen, j'ai grandi à Rouen. Je suis issu d'une famille assez populaire. J'ai eu un parcours scolaire où jusqu'à la cinquième, j'ai toujours été dans les 2, 3 premiers de la classe, si ce n'est le premier sur certaines années. J'ai eu certains éléments de ma vie qui m'ont malheureusement éloigné un petit peu du système scolaire, alors sans sortir évidemment, mais tout du moins dans l'investissement et l'apprentissage. Et pour le coup, à partir de mes 12-13 ans, j'ai commencé à être un élève un peu plus standard, qui se contentait de faire le minimum et d'assurer la moyenne, histoire de passer les classes comme il fallait. Arrivé au lycée, un peu plus d'autonomie. Alors là, pour le coup, j'ai redoublé la seconde, j'ai redoublé la terminale.
Oui, on est beaucoup à avoir ce genre de parcours.
Voilà. J'ai difficilement eu mon bac, du coup, au deuxième passage. Difficilement avec 12,5 de moyenne quand même, hein, petite mention, mais voilà,
ça va.
Pas très glorieuse. Je me suis lancé dans des études d'économie, droit et gestion à la fac,
ouais.
Qui ont duré seulement 3 semaines,
parce pas
que je me suis vite aperçu que voilà, j'avais besoin d'encadrement, j'avais besoin de personnes autour de moi qui me surveillent, qui me motivent, qui me tirent vers le haut et qui m'apprennent des choses. Là, clairement, à la fac, t'es lâché.
Ouais, t'es un peu lâché.
T'es lâché tout seul, si t'es pas autonome, si t'es pas assez mature, je pense que je l'étais, mais peut-être un peu trop la tête à la fête à l'époque, voilà, en termes de suivi scolaire, c'était pas fait pour moi. Et j'ai pris mon indépendance, j'avais 17 ans. Mon premier appart, je l'ai eu à 17 ans. Et voilà, il a fallu que je commence un petit peu à travailler parce qu'à l'époque, je n'avais que 237 euros par mois pour vivre. Quand tu te retrouves avec 237 euros pour prendre ton bus, t'acheter à manger, des vêtements et tout le tralala, bah, je te cache pas que tu as besoin de bosser un petit peu à côté. J'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage Sébastien qui a été mon beau-frère pendant 25 ans. Qui du coup m'a montré la voie du travail assez jeune.
Et alors, Sébastien qu'on rencontre à Cancan.
Tout à fait.
Ok, c'est pour faire les rapprochements.
Tout à fait, donc Sébastien est maintenant mon bras droit au resto.
D'accord.
Ceci étant, à mes 17 ans, c'est lui qui m'a montré la voie du travail en me proposant du coup un job en tant que serveur à Oulgat dans un restaurant qui s'appelle l'Hostellerie Normande, où je me suis retrouvé du coup à faire le service dans un restaurant de 9h à minuit. J'ai touché mon premier salaire au mois d'août, donc je prenais mes 18 ans au mois d'août, où je me rappelle à l'époque, j'avais 936 euros, je crois, pour faire 250 heures dans le mois. Ceci étant, ça m'a vraiment appris la valeur du travail, où en fait, quand tu touches tes 936 euros quand tu es jeune, tu dis waouh, je vais faire tellement de choses avec tout ça.
Ouais.
Et sachant qu'habituellement, tu n'en as que 237, tu te dis, c'est plutôt bien. Et je me suis pris de passion en fait pour ce métier. Le contact avec les clients, être au service, la gentillesse des gens. Et je me suis retrouvé par la suite, toujours par l'intermédiaire de Sébastien, à travailler dans des événements, voilà, plutôt côté événementiel, avec réalisation de mariage le week-end, principalement.
D'accord.
Et de là, j'ai été repéré par un chef d'équipe qui s'appelle Nicolas, qui lui, quand il m'a vu travailler, bien que je n'avais que très peu d'expérience pardon, dans le métier, m'a dit, toi, t'as la fibre, t'as quelque chose, et si ça t'intéresse, tu viens bosser avec moi à Paris. Et de là, j'ai commencé à bosser dans les plus grands traiteurs parisiens, notamment Potel et Chabot, qui est le numéro 1 en France et en Europe, chez qui j'ai fait mes armes, tout mon apprentissage, et qui m'a une fois de plus appris la valeur du travail et la rigueur qui me correspond, quoi.
Ok, et quand tout ça arrive quand? Parce que je vois bien là que tu as été accompagné, tu as été entre guillemets subalterne, tu avais toujours quelqu'un au-dessus de toi, et là nous maintenant on te connaît sûrement, en tout cas en tant que patron, quoi, patron d'un restaurant qui est relativement marqué, connu, place du Vieux Marché à Rouen. Comment on arrive à cette place-là?
Donc Potel et Chabot, j'y passe 10 ans, j'y fais mon apprentissage, j'apprends vraiment toutes les techniques de travail, l'accueil client, le savoir-être, hein, tout ce qui me correspond à l'heure d'aujourd'hui. Et pour mes 27 ans, je crois, ouais, mes 27 ans, je mange au restaurant étoilé qui s'appelle l'Origine, enfin qui s'appelait Origine, qui n'existe plus maintenant. Et le chef me reconnaît en faisant son petit tour de salle à la fin du service et me dit, mais nous, on s'est déjà vu quelque part. J'avais l'impression de ne jamais avoir vu cette personne. Et pour le coup, j'étais avec une ex-copine à l'époque. Et je lui dis, mais c'est bizarre, parce que si le chef a l'impression de me connaître, c'est qu'en effet, on a forcément déjà dû se croiser. Donc, je réfléchis. Et là, en fait, je m'aperçois que ce fameux chef, Benjamin, je l'avais servi à une récompense au Go Emilio à la maison Kenzo Takada en 2015, où il avait été récompensé. Et j'étais plus ou moins son maître d'hôtel particulier. Il y avait plusieurs chefs qui étaient récompensés ce jour-là. Et moi, ma fonction lors de cet événement, c'était de m'occuper de façon très, très VIP des chefs qui étaient récompensés. Et donc, à la fin du repas, je me permets de le faire rappeler à la table en lui disant que voilà, oui, en effet, on s'était déjà vu, que c'était à tel événement, à tel moment. Et de là, Benjamin, très naturellement, me dit, si tu veux te sédentariser à Rouen, n'hésite pas, on peut se faire un rendez-vous sans souci. Alors moi, j'étais fan de mon job, j'adorais tout ce que je faisais chez Potel et Chabot, loin de moi l'idée de un jour venir me sédentariser à Rouen, et Benjamin a insisté pour qu'on se rencontre. Donc après plusieurs appels, j'ai cédé, je me suis retrouvé dans son bureau, où il m'a, dans un premier temps, proposé un poste de maître d'hôtel dans son restaurant étoilé. Alors, je ne vous cache pas que les salaires parisiens et les salaires rouennais sont loin d'être les mêmes, donc je me suis senti dans l'obligation de refuser l'offre, sachant que j'avais déjà acheté un appartement et j'avais quelques crédits sur le dos. Donc, quand tu es en train de vivre un salaire, c'est difficile de diviser par deux sa rémunération.
C'était pas le moment de changer de vie.
Bon, j'en avais pas l'envie, j'en avais pas l'utilité. Moi, j'adorais ce que je faisais. Il m'a resollicité un mois ou deux après en me faisant une proposition avec un salaire un peu plus élevé et un logement de fonction. Chose qui ne m'intéressait toujours pas, parce que moi, j'étais fraîchement propriétaire de mon appartement dans lequel je me sentais très bien et que je n'avais certainement pas envie de quitter. Et il m'a recontacté une troisième fois en me proposant une place de manager chez Cancan dans un premier temps, où lui aurait la direction, en tout cas l'œil sur l'établissement, et moi qui le gérais au quotidien, alors sans visibilité sur les chiffres. La collaboration a duré environ un an et demi, elle s'est terminée de son côté, elle s'est prolongée du mien, où là du coup je suis passé directeur du restaurant avec une vraie visibilité sur les chiffres. Et en fait, comme je dis toujours, gérer un restaurant avec les yeux bandés, c'est comme faire une course de Formule 1 avec un casque opaque. Si tu vois pas où tu vas, si tu vois pas comment tu peux vite te prendre un accident au premier virage. Et là, pour le coup, le fait d'avoir une vraie visibilité, ça permet du coup de voir les choses à améliorer au sein du restaurant. Et du moment où j'en ai repris la direction pure et dure, on a très rapidement multiplié par deux le chiffre d'affaires, la qualité, la fréquentation, les notes sur les réseaux sociaux. Il s'est passé 2 ans et demi où j'étais au poste de directeur. Ouais. Et pour la petite histoire, donc Cancan est l'association à la base de 4 amis qui ont voulu se faire plaisir en rachetant le bistrot des Halettes à l'époque pour y faire plus ou moins leur cantine. Et en fait, comme c'est une histoire d'homme et que j'ai fortement participé au développement de leur restaurant, ils m'ont naturellement proposé de racheter 49% des parts au moment voulu. Donc, chose sur laquelle, bien évidemment, j'ai dit oui dès qu'ils me l'ont proposé.
Ok, alors tu nous as parlé plusieurs fois, tu as employé plusieurs fois l'expression la valeur travail.
Oui.
Et même dans la petite intro qu'on a faite, à la première question, tu m'as répondu artiste, après expérimenté. Là, moi, je me suis dit, je connais la réponse à la troisième question. Si je te dis travail, je m'attendais à passion. Non, ça a été go, 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 quoi, on y va.
Le travail, c'est la vie. Enfin, c'est... Avant le 4 juin, pour moi, le travail, c'était la vie. Maintenant, il y a aussi autre chose que le travail dans la vie. Ceci étant, ça a toujours et ça aura toujours une place très importante dans ma vie. Et pour la petite histoire, le go, 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 ça vient d'Eddie de la Salle, qui est pour moi mon maître de la restauration, vraiment la personne que j'idolâtre et pour laquelle je me réfère énormément, qui est le directeur du pavillon d'Armenonville chez Potel et Chabot à Paris.
Ouais.
Et cet homme-là gérait des prestations des personnes les plus fortunées, avait jusqu'à 130, 150 bonhommes à manager sur la même journée, et d'une main de fer, d'une main de maître. Et ce qui était assez impressionnant, quand on envoyait les plats chauds, parce que les services se faisaient à l'époque chez Potel à la Russe, donc tous les maîtres d'hôtel sont des parcs cuisine avec leur plateau en argent dans la main gauche, la saucière dans la main droite, et on fait des défilés de salle. Et au moment d'y aller, Eddie dans la salle avait toujours cette mimique de dire « Allez, go, 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 on y va, on y va !» Histoire de motiver les troupes et de faire une belle entrée de salle et un très joli service pour nos clients.
D'accord. Et donc, le travail, c'est une valeur, mais nous, sur ce podcast, sur la thématique, c'est aussi autre chose. Alors, toi, tu es restaurateur. On dit souvent que la restauration, c'est un peu la représentation de l'art de vivre à la française. Donc, c'est un sujet que tu dois maîtriser. Mais si je change un peu les termes et que je te parle d'art de vivre le travail, ça t'évoque quoi ?
L'art de vivre le travail, c'est trouver, à mon sens, une belle alchimie entre sa vie de famille, entre sa vie de travail, entre le bien-être de ses collaborateurs aussi. C'est-à-dire que moi, tous les matins, quand je vais bosser, j'y vais pas reculons, j'y vais avec le sourire, j'y vais avec la banane. J'ai avec toutes mes idées, alors qui sont plus ou moins bonnes pour certaines, mais toutes les choses que j'ai envie de développer chaque jour, il est important pour moi que mes collaborateurs aient cette même envie, cette même impulsion que moi tous les matins en se réveillant. Alors dans la restauration, c'est pas toujours très simple, parce qu'il y a les horaires, et mine de rien, on bosse toujours quand les autres s'amusent, donc on essaye de le faire un peu différemment, mais on a une belle complicité, une équipe jeune, dynamique, et avec toutes nos bêtises.
Et là, ouais, la restauration, en même temps, en ce moment, on est un peu, la période, elle est un peu compliquée. Et pour autant, alors que ce soit de la part de Cancan dans sa communication sur les réseaux sociaux ou même quand on y va, moi, j'ai eu l'occasion de venir de temps en temps entre les deux périodes de confinement. Donc, que ce soit virtuel ou réel, de la part de toi et de ton équipe, il y a une sacrée positivité, motivation, à une époque où on voit la plupart des restaurateurs se plaindre de ce qui se passe. Je n'ai pas, il me semble-t-il, vu un seul mot, une seule expression dans le sens de ta part et de la part de ton resto. Ça devient d'où cette motivation, cette positivité à toute épreuve?
J'arrive pas à l'expliquer, c'est comme ça. En fait,
faudrait que tu fouilles parce que ça, t'as sûrement des conseils à donner à plein de gens en ce moment. Enfin, c'est assez impressionnant.
Je jette pas la pierre à ceux qui se plaignent parce que mine de rien, c'est vrai que la situation est pas est plutôt compliquée et pas simple. Après, je pense pas que ce soit la meilleure solution pour s'en sortir et pour garder le contact avec ses clients que de pleurnicher à droite à gauche. On n'a pas le choix, c'est comme ça, donc autant relever la tête, se creuser la tête, trouver de nouvelles idées, se développer et des idées qui par la suite pourront aussi être mises en place pour développer le business et cumuler ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait en ce moment et ce qu'on fera demain. Et je pense que c'est comme ça qu'on développe les idées, les affaires, le chiffre d'affaires et le savoir-faire. Parce que mine de rien, là, en ce moment, je découvre un nouveau job. Hein. Je suis livreur, préparateur de commandes chez Cancan. Enfin, je ne suis plus directeur, même si je le suis quand même. Mais organisateur, secrétaire, parce que je m'occupe du site web et de créer les menus. Enfin, tout ce que je n'avais jamais besoin de faire avant, parce qu'on n'était pas confronté à ce genre de choses. Après, oui, la positivité, mine de rien, elle vient aussi parce que tous les mois, enfin tous les ans, j'ai racheté des parts, on ne me les a pas données, et il faut que je trouve des sous pour les rembourser. Donc, ce n'est pas en restant assis dans mon canapé à pleurnicher que ça va tomber et que je pourrai payer mes remboursements. Donc, non, il faut toujours réfléchir, toujours avoir de la positivité et la transmettre à ses clients. C'est aussi ça qui génère de la bonne humeur, de la commande, mine de rien. Parce que quand on transmet sa bonne humeur, sa joie, les gens ont plus envie de t'aider que si tu pleurniches.
Oui, forcément.
Et voilà, quoi. Mais en tout cas, ça se fait tout naturellement. Rien n'est calculé. Je fais tout au feeling. Je fais tout comme ça vient à l'instant T.
Mais du coup, tu nous disais, ouais, t'en as profité pour développer des nouveaux projets, en particulier l'aspect traiteur. Et nous, au sein de Now Coworking, on connaît bien parce que tous les midis, tu nous livres des petits plats. On te connaît, mais t'as une équipe avec toi. Comment t'as fait pour, quand la crise est arrivée, qu'on a parlé de la fermeture des restaurants, comment t'as fait d'une part pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils restent motivés, et puis qu'ils adhèrent aussi à tous les nouveaux projets? Parce que j'imagine que pour une équipe de resto qui est habituée à préparer des commandes, à vivre des coups de feu, à servir des clients à table, l'activité traiteur, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à engager ton équipe dans ces nouveaux projets et puis les rassurer pendant la crise qui, malheureusement, dure encore un peu?
Je traite toujours mes collaborateurs, le personnel qui m'accompagne, comme j'aimerais, moi, être traité en tant qu'employé. Déjà, ça, c'est une chose qui est très importante, parce que quand on met les personnes qui nous accompagnent au même niveau que nous, et qu'on se met tous dans le même bateau, déjà, il n'y a pas le patron d'un côté et les collaborateurs employés de l'autre. Ça, déjà, c'est une chose qui est très importante, et je pense que ça, ils le comprennent tous, ils savent tous d'où je viens, qui je suis. Je suis transparent sur mon passé avec tout le monde. Après, pour les emmener dans mes projets, c'est pas dur. Déjà, le nerf de la guerre, la rémunération de base, fait que mes employés sont contents de venir bosser au quotidien. Ils ne sont pas exploités, ils sont à la fois valorisés de façon pécuniaire, mais aussi dans la reconnaissance du travail. Toujours le petit mot où, quand le job est bien fait, on insiste dessus en leur disant que voilà, t'as bien bossé pour telle et telle raison. Ce qui permet aussi parfois d'appuyer de façon plus sereine sur des points à améliorer. Voilà. Quand il y en a un qui a deux, trois défauts, on fait deux, trois compliments avant. Et puis, tiens, par contre, ce petit aspect-là, serait bien que tu puisses le modifier pour être encore plus au top. Sur le développement du traiteur, moi, c'est mon métier de base déjà. Donc,
Oui.
on va dire que je maîtrise bien plus le traiteur que le restaurant en tant que tel. Alors, je pense que du coup, on peut avoir un bel avenir dans ce domaine. Alors, ça fait un peu prétentieux, mais je vois ce qui se fait en concurrence à Rouen et je vois ce que j'ai fait auparavant à Paris. Et donc, du coup, je sais de quoi nous sommes capables. Il y a un beau créneau à prendre pour nous. Une fois de plus, je suis transparent avec mes piliers, c'est-à-dire que j'en ai trois, quatre au restaurant qui sont autant que moi investis, si ce n'est plus pour certains d'ailleurs, pour la simple et bonne raison, c'est que si ça marche pour moi, ça marche pour eux. Donc, en termes d'évolution, de savoir-faire, si ça marche pour nous, ça marche pour eux, quoi. Je vois mon chef, on a réussi à doubler son salaire en l'espace de 3 ans.
Ouais.
Et certains de mes collaborateurs gagnent bien plus que ce qu'ils espéraient gagner un jour dans leur vie. Donc, voilà, le développement du traiteur, il y a un pourcentage qui est reversé aux piliers et ça me permet aussi de les tirer avec moi et de les embarquer dans mes projets, quoi.
Ouais, alors, mais j'imagine, pour connaître un petit peu le resto et puis quelques fondateurs, financeurs, que sais-je encore. Tu parlais beaucoup de rémunération, mais je suis persuadé qu'il n'y a pas que ça. Un des trucs qui est super agréable quand on arrive chez Cancan, c'est que on connaît l'équipe. On se dit bonjour, certains on se tutoie, qu'on soit habitué ou pas, parce que là, depuis le début de l'interview, je dis que je suis venu plusieurs fois, mais je reste un client qui est simplement venu plusieurs fois. J'imagine qu'il y a des beaucoup plus fidèles que moi. Et du coup, on est quand même dans un secteur où on entend souvent dire que il y a des difficultés pour recruter, qu'il y a beaucoup de turnover. Et dans ton resto, alors on m'a précisé que ça n'avait pas toujours été le cas, mais depuis quelque temps, il y a quand même très très peu de turnover. Et j'imagine que c'est pas simplement une question de salaire. Il y a peut-être même d'ailleurs des restos qui payent mieux que toi à Rouen,
Oh
en
oui, il y en
fait.
a certainement.
Voilà, c'est pas le sujet. Il reste donc pour autre chose que simplement le salaire.
Pour l'ambiance, mes beaux yeux bleus aussi.
Ouais,
Non,
j'imagine, mais.
blague à part, en effet, quand tu parlais de turnover, donc je sors de chez Potel et Chabot, j'arrive chez Cancan. Nouvel univers pour moi. Potel, c'est l'armée. Tout est carré, tout est droit, tout doit filer parfaitement. Et là, tu te retrouves chez Cancan et tu as affaire à des équipes qui sont en place tous les jours. Enfin, tous les jours, tu as affaire aux mêmes collaborateurs. Et ma technique de management à l'époque était bien trop dure et bien trop ferme pour certains. Ce qui fait qu'en effet, j'ai fait 4 chefs de cuisine en 18 mois, je crois. Donc,
Ouais.
un poste clé du restaurant où j'ai même réussi à faire fuir un super chef qui était anciennement étoilé, enfin, un mec de 42 ans qui en plein service a pété les plombs parce que je lui demandais beaucoup trop de rigueur, beaucoup trop de rapidité et beaucoup trop d'un coup en fait. Alors qu'à l'époque, c'était un samedi soir quand il achetait son tablier, on faisait seulement 80 couverts sur la soirée. Mais pour moi, c'était pas assez parfait. Donc toujours la pression, la pression, la pression. Et mine de rien, je ne descendais en cuisine, parce que la cuisine est en sous-sol, uniquement pour faire des reproches. Parce que pour
D'accord.
moi, il n'y avait pas besoin à l'époque de dire quand ça allait bien. C'est-à-dire que ça aille bien, c'est naturel. Donc il n'y a pas besoin de se le dire et de se faire des courbettes. Par contre, quand ça ne va pas, on descend, on y va, on gueule et puis on fait avancer les choses. Mais en fait, c'est largement contre-productif. Et un jour, un homme m'a dit, enfin, un des associés, hein, écoute Franck, on sent que tu es investi, on sent que tu fais le job, tu es carré, tu es pro, mais sache qu'on ne pourra pas se permettre de changer en permanence d'équipe, on sera peut-être
Oui.
obligé un jour de changer de directeur. Et là, tu te dis, mais merde, attends, je me donne à 200% pour ta boîte. Enfin, je... Si tout le monde fait comme je veux, demain, on est au sommet, quoi. Et c'est prétentieux ce que je dis, hein, mais...
Pas forcément. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, bah, comme tu nous l'as expliqué, tu es autodidacte. Donc,
c'est ça, tout à fait.
Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait des gens qui t'accompagnent, qui te donnent des conseils, qui, là, pour le coup, te filent un coup de pression quand même. Pour te,
ah ouais, c'était un beaucoup de pression parce que je t'ai dit, je suis sorti du rendez-vous, je me suis dit, mais pour qu'ils me prennent, quoi. Enfin, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, ce que je veux, c'est la perfection et on me reproche ça, quoi. C'est pas possible, ils ont un problème. Et en fait, c'est là où j'ai pris un peu de distance, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, waouh, si un homme avec ce parcours, cette expérience, me dit cette chose-là à ce moment-là, c'est que forcément il a raison et que toi, t'es un petit con et t'as tort. Et pour le coup, j'ai pris du recul, je me suis formé au management avec une personne qui s'appelle Gilles Reynaud, que je conseille, qui est un coach en management, qui est juste génial. J'ai passé de longues heures avec lui, donc Cancan m'a payé une formation de 2 jours et 5 fois 1 heure. Et, ouais. Et moi-même, de ma poche derrière, j'ai repris 3 fois 4, 3 fois 5 heures, où on a bossé tout un tas de sujets. La gestion du temps, la gestion des conflits, enfin, tout un tas de sujets, un sujet par heure, enfin par heure de travail, et qui m'ont amené du coup à revoir complètement ma façon de manager les équipes, et qui apporte le résultat d'aujourd'hui, où en effet j'arrive à stabiliser mes équipes, j'arrive à les tirer avec moi dans les projets, et je suis très content là. Par exemple, Justin qui a seulement 24 ans, lui, son rêve, c'est de devenir le chef de cuisine de l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers qu'on est en train de développer avec les associés, quoi. Et le gars est motivé, et ce qui le motive, c'est le projet, c'est pas le salaire, et c'est l'accompagnement humain, quoi.
Alors là, tu viens de nous dire un truc sur l'art de vivre le travail, moi, qui m'épate un peu, qui m'épate, j'imagine que ça existe, mais donc en gros, il y a ton employeur, ton entreprise qui te paye une formation,
oui.
Et toi, à un moment donné, de ta poche, tu y vas et tu finances de ta poche le reste de la formation, quoi.
Bah, en fait, la formation de base, elle était en effet prise par la société.
Oui, c'est normal, enfin, c'est comme ça que ça se passe en général. Par contre, des salariés qui, à un moment donné, vont se dire bah, « Pour mon boulot, je paye moi-même de la formation. » C'est pas courant, enfin.
J'essaye toujours de regarder plus loin que le bout de mon nez, et je pense que ce qui a engendré aussi cette proposition de rachat de parts de 49%, je pense que sans ces heures de formation que je me suis offert par la suite, peut-être qu'elle ne serait jamais arrivée parce qu'on n'aurait pas eu les résultats et la fidélisation du staff. Donc le restaurant, je ne le tiens pas tout seul, c'est une équipe. Et je pense que sans cette équipe-là, on n'aurait pas eu ces résultats et je n'aurais jamais eu cette proposition qui me serait arrivée sous le nez. Donc,
tu parles beaucoup de ton équipe qui effectivement a l'air soudée. On fait comment pour avoir une équipe soudée? Est-ce que c'est simplement une question de temps et puis de changement de personnel, et au bout d'un moment, c'est magique, l'équipe est soudée, ou est-ce qu'il y a une recette derrière tout ça?
Je ne sais pas s'il y a une recette, j'en sais rien. Comme je te disais tout à l'heure, tout ce que je fais, je le fais au feeling, je le fais au ressenti, le recrutement, je le fais au ressenti. Je me suis fait rarement avoir. En règle générale, non, j'arrive à emmener les gens là où j'ai envie d'aller avec moi.
Là, on est quand même beaucoup dans le go, 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 mais tu n'as jamais de coup de blues, tu n'as jamais de moment un peu il y en a marre. Tu fais comment dans ces moments-là pour y retourner de nouveau? Parce que tu ne peux pas être tout le temps ultra positif, tout le temps ultra motivé. Il y a forcément des passages un peu plus bas, quoi.
Tu seras étonné, mais dans l'ensemble, oui. Toujours très positif. La seule fois où en effet j'ai eu une petite baisse de morale, c'était là très dernièrement, c'est-à-dire qu'on se tape le premier confinement où on n'a pas fait une vente à emporter en livraison dès le début, parce que moi, je partais...
Non, vous avez mis du temps à démarrer.
On a mis du temps. Je partais du principe à l'époque que le gouvernement prenait une mesure exceptionnelle en confinant tout le monde chez soi. Je me voyais difficilement demander à des clients de venir chercher Cancan pour manger chez eux ou d'envoyer des gars à moi faire de la livraison, sachant que ce n'était pas du tout quelque chose d'indispensable dans le monde-là. Et en fait, on a lancé la première fois l'activité emportée livraison uniquement quand les courbes commençaient à être assez basses et en descente. Ça a plutôt bien fonctionné, donc on était assez contents. On reprend la rouverture du resto, ça marche sur les chapeaux de roue, on se fait, excusez-moi du terme, mais éclater pendant 4 mois. On a des croissances par rapport à N-1 à plus 20, plus 30, plus 40 selon les mois. Et là, une bonne dynamique dans l'équipe, tout le monde est content. Et là, boum, de nouveau, refermeture administrative, confinement numéro 2. Et on avait anticipé ça avec le chef. Je crois que le chef de l'État a parlé le mercredi ou le jeudi. Nous, dès le vendredi, on lance cette vente à emporter et en livraison. On se met en place, la carte est faite, les commandes tombent, on est content. Et là, le lundi, je prends ma petite voiture, je vais au resto, j'essaye d'aller au resto, et en fait, je me retrouve dans les bouchons, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, l'annonce du deuxième confinement, je suis dans les bouchons, mais il y a un problème. Enfin,
il y a du monde, quoi.
T'as vécu le premier, t'as vécu le deuxième, deuxième. Je rentre le soir, je suis un peu déprimé. Et ça a duré 2-3 jours, quoi, jusqu'au moment où un des associés, Pascal, si on peut le citer, m'envoie un message un soir à 22h30 en me demandant « Comment ça va, toi, en ce moment ?» Et là, boum, les nerfs qui tombent, la larme à l'œil, et tu te dis, c'est la première fois en 6 ans que je vais dire, ouais, non, ça va pas, en fait. Ça va pas du tout, parce que c'est pas juste, quoi. En fait, il y a une injustice, et moi, je supporte pas ça, l'injustice. Et Pascal, très naturellement, me dit, viens passer une heure demain avec nous, on prend une heure, Edouard et moi, et on va discuter, on va essayer de trouver une solution au problème. Le fait d'avoir des associés seniors... à ses côtés, avec leur expérience, leur savoir-être et tout ce qu'ils ont accumulé dans leurs années de travail, juste une heure, ça m'a permis à effacer ces quelques jours de déprime, entre guillemets, et de repartir sur les chapeaux de roue. En effet, je me suis dit, mais ça ne me ressemble pas, je n'ai pas le droit d'être comme ça, quoi. Donc, dès le lendemain, j'ai appelé ma petite alternante en communication et je lui ai sorti 50 idées de com d'un coup, et on a relancé sur les chapeaux de roue la vente à emporter, malgré les bouchons. On a réussi à tirer notre épingle du jeu et à relancer une activité qui est plutôt correcte et dont on ne peut que se satisfaire pour le moment, quoi.
Le fait que tu sois autodidacte, que tu aies des gens qui t'accompagnent comme ça, est-ce que c'est un atout au niveau du management et de la gestion d'entreprise? Est-ce que tu aurais préféré justement être formé à tout ça? Voilà, quel est... Comment tu vis ça, le fait d'être autodidacte, et qu'est-ce que ça t'apporte dans tout ça?
Je pense que du coup, je serais potentiellement en possibilité de pouvoir toucher à n'importe quel job. C'est-à-dire que j'ai cette faculté de m'intéresser à un domaine, regarder comment font les gens, l'interpréter à ma sauce, y mettre ma patte, mon style, et après, développer à ma manière. On prend juste l'exemple de la communication. Quand je suis arrivé chez Cancan, c'est Pascal qui m'a créé un compte Facebook. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et puis maintenant, on est une des pages de resto les plus animées, les plus suivies, où il y a le plus de dynamisme et de qualité visuelle. Pareil, première séance photo avec mes photographes, je ne savais pas trop quoi faire. On a fait ça sur les tables à nu. Maintenant, tu regardes les photos chez Cancan. Alors, je ne vais pas dire que c'est des œuvres d'art, mais...
On fait les choses bien.
On s'est même copié d'ailleurs, donc voilà, c'est qu'en général on copie ce qui est bien, et...
Oui, mais c'est pas pour ça que ça marche.
Ça, c'est un autre sujet qui ne me regarde pas.
Mais du coup, tout ça effectivement, tu te sens un peu plus libre dans tes choix, dans tes décisions, et puis peut-être dans tes prises de risque, de pas être dans un truc carré à faire comme on t'a appris à faire. J'imagine que c'est chouette de se sentir un peu libre dans tout ça.
C'est ça. Je prends souvent l'exemple des stagiaires qu'on a au resto qui du coup ont une formation hôtelière à l'école, arrivent en entreprise et en fait sont pas formés, ils sont à mon sens déformés, quoi. C'est-à-dire que il y a ce qu'on apprend à l'école, il y a ce qu'on apprend sur le terrain. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, c'est ce qu'on apprend sur le terrain, c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc, le fait de tout apprendre par soi-même en s'inspirant de ce qui se fait par les autres, je ne sais pas si c'est la bonne recette ou la bonne façon de faire. En tout cas, c'est la mienne. Et je pense que demain, si on me lâche dans l'immobilier, on me lâche dans n'importe quel domaine, j'arriverai toujours, je l'espère, je pense, à m'en sortir.
Alors, on va rester quand même dans la restauration.
Ouais, non, bien sûr.
Mais tu disais que tu étais content d'aller au boulot. Là, tu parlais aussi de ton équipe que tu essayais d'entraîner. Et il s'avère, par le plus grand des hasards, que moi, je me suis plusieurs fois retrouvé chez Cancan, mais pas au moment où le resto est ouvert. On ne reparlera pas d'un concours de gobage de Flamby.
Non.
Reste que néanmoins, ça m'a permis de voir ton équipe arriver. Et alors, je ne sais pas si c'est une impression, j'espère que ce n'est pas qu'une impression, mais que ce soit les serveurs, le plongeur, le chef, ils arrivent, mais ça a l'air de les éclater d'arriver au boulot. Enfin, c'est bien, là on est chez Now Coworking, moi je vois tous les jours plein de gens heureux d'arriver au boulot, mais si tu regardes dans les médias, si tu regardes ce qui se passe en France actuellement, être heureux d'aller au boulot, c'est quand même pas ce qui se produit le plus souvent. Donc tu t'expliques le pourquoi du comment ton équipe est super heureuse d'arriver chez Cancan pour assurer quand même des métiers super difficiles, que ce soit au niveau de l'investissement, du physique, des horaires. Non, ils arrivent tous avec le sourire, quoi.
Ah, c'est vrai qu'en termes de pénibilité au travail, la restauration est plutôt bien placée. Ceci étant, oui, une fois de plus, ça vient dans l'ambiance générale du resto où tout le monde s'entend bien, il y a une bonne communication en interne. Il y a certains restos où il y a la cuisine d'un côté, la salle de l'autre. Là, non, c'est une petite famille, en fait. C'est une petite famille où il y a aussi pas que des bons moments. Hein. Des fois, ça gueule un peu entre les équipes.
C'est logique, oui.
Quand il y a des choses qui ne vont pas ou des messages qui sont mal passés. Mais tout ça, dans la finalité, c'est d'avoir des clients contents. Vraiment une petite famille. Et comme tu disais tout à l'heure, quand on vient chez Cancan en tant que client, on est reconnu, on est salué, on est parfois tutoyé. Moi, c'est ce que je dis aussi hein, quand je recrute et au quotidien auprès de mes équipes, c'est quand on reçoit un client chez Cancan, partez du principe que c'est comme si vous receviez un ami à la maison. Vous avez envie qu'il passe un bon moment, qu'il ait envie de revenir, qu'il ait une bonne image de vous, qu'il trouve votre maison propre, qu'il trouve votre maison bien décorée, avec une bonne musique. Enfin, vraiment, tout un transfert d'ambiance. Je pense que c'est une alchimie, quoi.
Ça va plus loin que ça, parce que j'ai envie de dire tout ça, les restaurateurs le disent, sauf que
Y en a qui le font,
sauf que
y en a
quand on arrive chez Cancan, c'est vrai, quoi. Enfin,
Après, nous, en hiver, la première chose qu'on apporte à un client, c'est pas la carte quand il s'installe chez nous, c'est une petite pierre chaude pour se réchauffer les mains. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est de la bienveillance et montrer au client dès son installation à une table, il est pris en main, on est là pour lui faire passer un bon moment, un moment innovant, un moment différent. Quoi. Si c'est pour servir une entrée, un plat, un dessert sans émotion, allez ailleurs. Nous, on vous apporte le petit plus qui va faire que vous allez vous rappeler de l'expérience chez nous. Quoi.
Alors, Cancan, actuellement, alors j'imagine un petit peu de par l'activité de traiteur, ça devient beaucoup plus qu'un restaurant. Tu t'inscris de plus en plus dans la vie de Rouen, de la métropole, économique, mais aussi dans plein d'autres domaines. On sait que tu as un partenariat avec le club de rugby. Là, en quelque sorte, tu accompagnes les entreprises pour leur permettre de faire manger leurs salariés pendant les journées de travail. On sait qu'il y a un nouveau projet alors où il y aura de la restauration, mais si j'ai bien compris, il n'y aura pas que de la restauration dans une église et en quelque sorte vous aider la ville à réhabiliter une église. J'imagine que tout ça, le partenariat, le nouveau projet d'entreprise à l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers, il y a forcément un intérêt économique, mais au-delà de de l'intérêt économique, être inscrit autant que ça dans la vie locale, c'est une fierté pour toi ?
Une fierté, je sais pas, en tout cas, c'est, je me verrais pas ne pas le faire. C'est-à-dire que quand on est commerçant de la ville et qu'on a, on a des opportunités qui se créent, je pense qu'il faut les prendre. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, du coup, en effet, de devenir partenaire du rugby. Donc ça, c'est une belle chose qui a pu arriver pour le restaurant. Un beau partenariat. En contrepartie, nous, on s'occupe des loges. C'est vrai que bah, ça a été un petit peu aussi le lancement du traiteur Cancan. Où, bah, du coup, on n'a pas eu le choix que d'assurer les prestats. Donc, on a créé une carte. On a fait les prestats pour 200 personnes l'année dernière, à chacun des matchs à domicile. Et de là, du coup, on a eu de la demande de partenaires du club qui nous ont sollicité pour, en effet, leur société là, ou des repas privés. Et naturellement, en fait, les choses se sont faites. Pour ce qui est de l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers, oui, une fois de plus, embarqué dans le projet par les associés. Et ça, j'en suis ravi parce que ça permet à un lieu tel que l'église bah, de se voir restauré, de revivre, de retrouver de la vie, en faire profiter aussi, en effet, les citoyens de la ville. Donc ça, c'est cool. Et tout en apportant, en effet, une gastronomie qui sera un peu à mon identité à l'intérieur, avec toujours en collaboration avec mon chef. Et une fois de plus, oui, en étant dynamique, on fait bouger les choses, on avance, on fait grimper les personnes qui nous accompagnent. Et, non, c'est une bonne dynamique. Après, faut que tout le monde soit dans ce sens, mais dans voilà, tous ceux qui m'accompagnent.
Mais l'église, c'est alors je me trompe peut-être, mais c'est indépendant de Cancan dans les faits.
Ah oui, dans les faits, oui, tout à fait.
Et donc, tu dis, tu es embarqué par tes associés, mais une fois encore, ton équipe, toi aussi, tu l'as embarqué dans ce projet, parce que tu me disais que tu avais un des membres de ton équipe qui voulait, lui, qui avait une envie, c'était de se positionner sur ce nouveau projet.
Ah, bah, c'est son rêve, Justin, c'est son rêve d'être chef de cuisine.
Mais alors qu'en règle générale, dans l'entreprise, quand le patron a un nouveau projet, bah, il n'embarque pas forcément son équipe. Enfin, tout est très dissocié. Et là encore, quelque part, administrativement, c'est deux structures différentes. Mm-hmm. Sauf que bah, y a les mêmes associés qui t'embarquent là-dedans. Et puis toi, ça a été immédiat d'avoir envie d'embarquer l'équipe Cancan là-dedans aussi. Enfin, comment ça
s'est passé ? En fait, je sais à qui je dois les choses. Donc, en effet, les piliers qui m'accompagnent. Moi, c'est pas dur. Le chef, quand il est arrivé chez Cancan, à l'époque, c'est pas moi qui ai fait son recrutement, hein. Il est arrivé là par le plus grand des hasards, gagné 1800 balles par mois, et je me suis engagé, je l'ai regardé droit dans les yeux un jour, et je lui ai dit, écoute Alex, je te promets que dans 5 ans, je te ferai gagner 5000 euros par mois, par contre, il faut que tu me suives, et il faut que tu suives mes idées, et qu'on avance ensemble, et là, à l'heure d'aujourd'hui, il a plus que doublé son salaire de base, quoi, donc...
Ouais, mais donc c'est bel et bien que c'est pas simplement une histoire de salaire.
Non, il y a pas que le salaire.
À un moment donné, t'embarques les gens et puis
tu les embarques et les choses tombent naturellement derrière.
Le salaire, mais
c'est ça.
Mais ouais, il y a une véritable dynamique au niveau de ton équipe, quoi.
Ouais, après je les embarque et puis après qui m'aime me suivre, j'ai envie de dire, hein. C'est qui a envie d'avancer avance.
Voilà. Alors, tu nous parlais de tes horaires à rallonge et puis les horaires de ton équipe. Et bah, on sait tous que la période est super compliquée. En plus, ils se préparent de toute façon pas des belles choses parce que Cancan, il y a quand même une grande terrasse. L'année prochaine, il y a eu la bonne idée de supprimer les chauffages en terrasse. J'imagine que, ouais, professionnellement, c'est forcément dur, mais comment tu fais est-ce que tu arrives à faire une coupure avec ta vie perso on est toujours dans l'art de vivre et l'art de vivre le travail. Tu as une recette pour que tout ça n'influe pas trop sur ta vie perso
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, mine de rien, c'est vrai que tu transportes toujours les problèmes à la maison. C'est pas parce que tu sors du boulot que ta tête se vide, hein, loin de là. Pour rebondir sur le souci des terrasses, moi c'est un problème que j'avais déjà anticipé là, avec les chauffages, où j'essayais de trouver les solutions avant même qu'il y ait les problèmes, donc ça risque d'être résolu assez rapidement, ouais, je l'espère.
C'était un peu plus de manière anecdotique, je parlais de ça comme
ouais,
ça.
Ouais, non, mais... bien sûr. Après, c'est aussi bien d'avoir des problèmes une fois de temps en temps pour nous forcer à nous bouger, quoi. C'est, si tout est rose tous les jours, ben, au bout d'un moment, on s'ennuie. S'il y a un peu... Alors là, je ne te cache pas qu'en effet, 2020, on a été un peu mouvementé, un peu trop même. Mais ça permet toujours de rebondir, de trouver des solutions, d'avancer, d'évoluer.
Et du coup, dans ta vie perso, ça se passe comment? Alors, c'est pas une question psy, hein, mais tu arrives, toi, à faire une coupure nette,
juste le dimanche. Le dimanche, c'est le téléphone reste dans la cuisine, sur le plan de travail, il bouge pas. Alors, il est pas en silencieux non plus, mais il est là en tout cas. C'est la seule journée vraiment consacrée à la famille, les amis, le fiston. Et après, j'ai le lundi. Le lundi, c'est la journée où je suis tout seul avec mon fils. Donc ça, c'est quelque chose que je m'impose jusqu'à ce qu'il aille à l'école. C'est que le lundi, on le passe ensemble. Alors, on a quand même les horaires de crèche qui sont prévus si réellement j'ai du job et des choses à avancer au niveau du travail. Donc, je le dépose la matinée. Et par contre, je le récupère à 14h. Et toute l'après-midi, elle n'est qu'à nous et à profiter ensemble, quoi.
Et donc, je vais rebondir sur des petits trucs que tu nous as dit. On sait que tu adores aller au travail, tu t'éclates, tu sifflotes. Visiblement, ton équipe, c'est la même chose. Et en plus, tout à l'heure, tu nous as dit, mais finalement, avec ma façon de vivre le travail, quelque part, je pourrais travailler dans n'importe quel secteur d'activité, ça se passerait de la même manière.
Je pense.
Quel conseil tu as à donner aux managers, aux directeurs d'entreprise, encore une fois, quel que soit le secteur, qui pourraient mettre en pratique pour que l'ensemble de leurs équipes puissent aller, eux aussi, au travail en sifflotant? Est-ce que tu as une idée? Et peut-être, si toi, tu étais dans un autre secteur, comment tu ferais pour que ton équipe, quelque part, s'éclate autant que toi?
Leur confier des projets, savoir déléguer, leur apporter de la considération, les mettre en avant, les féliciter, leur donner envie de se défoncer pour toi, quoi. C'est aussi bien humainement que financièrement.
C'est ce que j'allais dire, mais mettre de l'humain dans tout ça. Exactement. Et pas rester simplement sur des rapports strictement professionnels. Et tu nous disais tout à l'heure que lors de ton vrai gros coup de blues au début du deuxième confinement, encore une fois, c'est des financeurs qui visiblement t'avaient accompagné, mais humainement et plus du tout sur un aspect de partenariat professionnel, etc. Quoi. Donc,
c'est ça. Il
faut remettre de l'humain dans tout ça pour que les choses se passent bien, si je comprends bien.
Exactement. Et un petit point sur lequel je souhaite insister, c'est que depuis tout à l'heure, on parle quand même pas mal de rémunération des équipes.
Oh, pas que, effectivement, bon, on en parle.
Mais moi, me concernant, en fait, c'est un truc tout bête, hein, mais bien sûr que c'est important, mais je ne travaille pas pour l'argent, je ne travaille pas pour développer mon compte en banque et mon foot plein les fouilles, bien au contraire. Moi, c'est le travail, en effet, tu le disais tout à l'heure en intro, tu t'attendais à ce que ce soit le mot passion qui ressorte.
Ouais, mais ça
l'est, en fait. C'est ma passion. Et je vis, entre autres, pour travailler, mais je ne travaille pas pour vivre. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois bien. C'est pas une passion d'emblée. Faut se donner pour que ça devienne une passion.
C'est ça, tout à fait.
Et j'ai une petite dernière question pour toi. C'est la question qu'on pose à tous les invités. Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle? Tu as le droit de réfléchir, hein, parce qu'elle est rude, la question.
L'expérience pro qui a le plus enrichi
ta vie perso?
Ma vie perso, tu aurais dû me la filer avant, celle-ci, que je puisse la bosser.
Ah mais non, mais justement, c'est le but du jeu de pas la filer avant.
Je dirais peut-être la première, du coup. La toute première, où je me retrouve, du coup, à 17 ans, en train de bosser dans un resto de plage, un resto hôtel, et qui, du coup, en fait, t'oriente sur le fait que le travail, c'est forcément ce qui va te tirer vers le haut, ce qui va te permettre d'améliorer ton quotidien et de développer ta vie comme il le faut. Donc, je dirais la première, du coup, ma toute première expérience.
Ok, bah écoute, Franck, j'allais dire merci pour ce moment, mais c'est un peu connoté. Écoute, merci du temps que tu nous as consacré.
Merci à toi de m'avoir donné la parole.
J'espère que ça a été agréable pour toi
Ouais, c'est
aussi. Ouais.
super.
Bah écoutez, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau J'ai rendez-vous avec autour de l'art de vivre le travail. Merci Franck.
Merci.